Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir, chers auditeurs et auditrices des quatre coins du monde. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Notre émission va commencer par le journal suivi du commentaire et l'histoire d'aujourd'hui.
La voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme Le Journal. Nous commençons avec les titres. Le ministère indonésien des Affaires étrangères donne Hassan Wirayuda Award 2016. L'Indonésie a condamné les attaques terroristes en Turquie. Kalimantan Central est demandé d'être souverain de la nourriture et d'exporter le riz. Le 15e paquet politique sera publié au début de l'an 2017. Et enfin, l'Indonésie et le Japon veulent accroître la coopération dans le domaine des ressources humaines. Voici le journal complet. La protection des citoyens est le mandat principal du ministère des Affaires étrangères de l'Indonésie. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Mme Retno Marsudi, a dit que les efforts de protection des citoyens indonésiens n'étaient pas faciles parce qu'ils ont souvent à faire face aux risques et exigent la dédicace élevée. À cette fin, le ministère des Affaires étrangères donne le prix Hassan Wirayuda de protection du citoyen 2016 à ceux qui ont contribué de manière réelle à la protection des citoyens indonésiens à l'étranger. Dans son discours lors de la cérémonie de remise de prix à Jakarta récemment, la ministre Retno a expliqué que le prix Hassan Wirayuda de protection des citoyens indonésiens 2016 donnait la plus haute reconnaissance aux 17 héros protecteurs des citoyens indonésiens à l'étranger.
Jadi sejak tahun lalu kita memiliki satu tradisi baru untuk memberikan apresiasi kepada banyak pihak yang telah membantu.
Depuis l'année dernière, nous avons une nouvelle tradition de donner l'appréciation aux nombreuses personnes qui ont contribué à la protection des citoyens indonésiens en donnant le prix Hassan Wirayuda. Bien sûr, le ministère des Affaires étrangères, des diplomates indonésiens ne peuvent pas faire cette tâche importante sans l'aide de nombreuses parties. Les lauréats du prix Hassan Wirayuda ont une application directe sur diverses questions de protection des citoyens indonésiens à l'étranger. Ces questions comprennent la protection des travailleurs indonésiens à l'étranger, les équipages de l'Indonésie, y compris les efforts pour libérer des otages, les citoyens qui font face aux problèmes ou se coincent dans un pays de conflit et la manipulation des citoyens qui sont indiqués ou des victimes des actes criminels à l'étranger. Il y a cette catégorie pour ce prix, à savoir la catégorie du partenaire du ministère des Affaires étrangères, le chef représentatif de l'Indonésie, la catégorie du partenaire de représentant de l'Indonésie, la société civile de l'Indonésie, la catégorie journaliste, la catégorie du personnel de représentant de l'Indonésie et la catégorie du gouvernement local. Les lauréats sont entre autres l'unité de trafficking, le département des enquêtes criminelles, la police et le bureau de droit et des relations étrangères, le procureur général, l'ambassadeur d'Indonésie à Mani et le consulat général indonésien à Kuching. Le gouvernement de la République d'Indonésie a condamné l'attaque terroriste qui a eu lieu à Kayseri en Turquie le 17 décembre 2016. Le communiqué de presse du ministère des Affaires étrangères a déclaré lundi que le gouvernement indonésien a également présenté ses condoléances au gouvernement et au peuple de Turquie ainsi que pour les familles des victimes de l'explosion et espère que les victimes blessées pourraient récupérer rapidement. L'explosion d'une bombe à Kayseri avait causé 13 décès et 48 blessures. Selon les informations de l'ambassade d'Indonésie à Ankara, jusqu'à présent, aucun des citoyens indonésiens qui sont victimes de l'incident de bombe à explosion. Toutefois, Le ministère des Affaires étrangères et l'ambassade d'Indonésie à Ankara continuent de se coordonner avec les autorités compétentes en Turquie. L'observation d'une série d'attaques terroristes en Turquie depuis quelques mois, le ministère des Affaires étrangères a lancé un appel aux citoyens qui sont dans la Turquie obéissent la règle de l'autorité de sécurité locale et évitent les centres surpeuplés qui peuvent être cibles. La province de Kalimantan Central a été demandée de continuer à encourager sa souveraineté alimentaire indépendamment, ne plus prendre de la zone extérieure. Parce que la chaîne d'approvisionnement est trop longue, par conséquent, l'inflation et la pauvreté se produisent qui ne sera pas résolue. Cela a été transmis par le ministre de l'Agriculture, Amran Sulaiman. Le ministre a déclaré que les produits alimentaires qui doivent être développés et améliorés, leur production, tels que le riz, le maïs et les poivrons. Amran Sulaiman espère que Kalimantan Central n'est pas seulement capable d'être indépendant, mais peut exporter du riz vers la Malaisie. Le ministre a ajouté que la Malaisie importe annuellement 1,2 million de tonnes de riz. Il devient un espace et la possibilité pour l'Indonésie pour être en mesure de remplir le volume de ses importations. Le ministre de coordination économique, Darmin Nasution, assure que le paquet de la politique économique du 15e volume sera publié à la fin de 2016 ou au plus tard au début de 2017. Le ministre Darmin Nasution, dans l'événement « Les perspectives économiques de l'Indonésie en 2017 », à Jakarta, ne se révèle pas encore en détail le contenu du nouveau paquet de la politique économique. Mais il assure que ce paquet soutiendra l'élan de croissance des investissements en 2017. Le ministre a souligné que ce paquet était très important qui a été structuré pour attirer les investissements tant à l'intérieur et à l'extérieur. La communauté des entreprises japonaises d'Indonésie de Jakarta Japan Club a tenu une réunion avec le ministre de l'Industrie, Erlangga Hartarto. Le président de Jakarta Japan Club, Tomofumi Fukuda, a déclaré lundi à Jakarta qu'il a rencontré le ministre de l'Industrie, Erlangga Hartarto, pour discuter de l'investissement japonais pour qu'il puisse continuer à contribuer à l'économie indonésienne. Selon Tomofumi Fukuda, l'une des questions qui ont été discutées est la coopération pour accroître la capacité des ressources humaines dans l'industrie indonésie. Il a parlé de la formation professionnelle, comme par exemple un rapport avec la zone industrielle, y compris de construire une école professionnelle pour former des ressources humaines indonésies pour être en mesure de travailler dans la région. Dans ce cas, le ministre Erlangga Hartarto veut que les écoles professionnelles peuvent être construites en Indonésie, de sorte que le Japon peut contribuer à créer des ressources humaines en bonne qualité dans le domaine industriel. Tomofumi Fukuda a déclaré que dans le domaine de l'industrie électronique, le Japon a l'intention d'exécuter le programme d'échange de ressources humaines via l'envoi de travailleurs indonésiens au Japon. Chers auditeurs, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta. C'est l'examen de l'antenne. Après le journal, maintenant vous pouvez écouter le commentaire et pour le titre, la préoccupation sur l'autisme. L'Indonésie est de nouveau en deuil. L'avion Hercules de la force aérienne s'est écrasé à Wamena dimanche le 18 décembre 2016, tuant tous les membres de l'équipage et les passagers. Il est encore frais dans la mémoire ce qui est arrivé à l'avion de la police nationale M 28 Skytrax qui a perdu contact et s'est écrasé samedi le 3 décembre 2016 dans les eaux du sud de Lingga, en province des îles de Riau. L'avion transportait 13 passagers composés de 5 membres d'équipage et 8 passagers. Cette année, il y a eu 7 accidents d'avions militaires qui ont tué des militaires et des policières. Ceux-ci, bien sûr, ont causé d'inquiétudes sérieuses sur le système principal d'armement défensif ou alutsista. En effet, l'alutsista est une partie importante de la sécurité et de la souveraineté de la nation et de l'État. Il est temps pour l'Indonésie d'améliorer son alutsista. Ironiquement, l'avion Hercules qui s'est écrasé au Wamena est un ancien avion, une subvention de l'Australie et non le résultat de nouveaux avions qui sont achetés propres. Les finances d'État devraient mieux souligner la force de l'armée et de la police. Le gouvernement et le Parlement se sont plus concentrés aujourd'hui sur l'acquisition de l'autista. Mais apparemment, en raison de la situation financière du pays, cela ne peut pas être fait de façon optimale. Pour le public, un accident d'avion militaire pour des raisons comme les mauvaises conditions météorologiques sont parfois difficiles à comprendre. Le matériel militaire ne devrait-il pas être le meilleur avec les classifications des équipements de défense pour résister à quoi que ce soit sur le champ de bataille, y compris la météo? Mais bien sûr, tout pourrait être la cause d'un accident. De facteurs tels que l'erreur humaine, l'âge de l'avion, la technologie insuffisante, même à des conditions météorologiques extrêmes. Lorsque le gouvernement avec l'armée et la police ainsi que le Parlement choisissent Alutsista, ils ne doivent pas faire trop de compromis et doivent s'adapter aux conditions actuelles pour ne pas être trop en retard dans la technologie. D'autre part, bien sûr, ce qu'il faut acheter doit être adapté aux caractéristiques de la zone ou de la région du pays. Il est vrai que parfois, les marchandises provenant de subventions ou d'articles utilisés peuvent être mises à niveau ultérieurement dans les bonnes affaires. En outre, bien sûr, le prix est beaucoup moins cher. Néanmoins, le contenu et la technologie sont dépassés et ne correspondent pas aux caractéristiques naturelles de l'Indonésie. Sans aucun doute, les équipements de défense sophistiqués affecteront grandement le système de défense du pays, y compris la sécurité du personnel qui les utilise. Chers auditeurs, c'était le commentaire pour ce soir.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs de la Voix de l'Indonésie, voici l'histoire du jour. L'histoire du jour de 20 décembre, nous commençons de le 20 décembre 1945. Otto Iskandardinata est mort à Tangerang. Otto Iskandardinata, il est un des héros nationaux de l'Indonésie. Lors des activités avant l'indépendance, Otto Iskandar a été le vice-président de Budi Utomo à Bandung pour la période de 1921 et 1924, et le vice-président de Budi Utomo de Pekalongan en 1924. Pendant l'occupation japonaise, il est devenu le rédacteur en chef du journal Cahaya de 1942 à 1945. Après la proclamation de l'indépendance, Otto Iskandardinata servit comme ministre de l'État dans le premier cabinet de la République d'Indonésie en 1945. Otto Iskandardinata a été désigné comme un héros national par le décret du président de la République d'Indonésie numéro 88 l'année 1963. Au 6 novembre 1973. La suite, le 20 décembre 1948, journée de la solidarité sociale. La journée de la solidarité sociale est fixée basée sur les événements historiques le 20 décembre 1948. Quand il a créé l'unité entre l'armée nationale indonésienne, TNI, et le peuple, exactement un jour après l'agression militaire néerlandaise. Deux forces de l'Indonésie, telles que l'armée nationale indonésienne et le peuple, travaillent ensemble afin d'expulser la colonisation hollandaise. La solidarité sincère basée sur la responsabilité envers la patrie. La dernière, le 20 décembre 1949, l'investiture du cabinet de la République d'Indonésie. Le cabinet de la République des États-Unis d'Indonésie en indonésienne ou République Indonésie Serikat ou RIS est le cabinet qui a été formé à la suite de la formation de la République des États-Unis de l'Indonésie. Après la reconnaissance de la souveraineté des puissances coloniales hollandaises, le cabinet est chargé de moins un an, avant de finalement l'Indonésie devient la République unitaire l'Indonésie. Ce cabinet en charge du 20 décembre 1949 jusqu'au 6 septembre 1950 à Jakarta. Chers auditeurs, c'était l'histoire du jour pour ce soir.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs, un grand merci de votre fidélité d'écouter la Voix de l'Indonésie. Avant d'écouter le rappel de titre de l'actualité, nous vous présentons d'abord la mise au point.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Chers auditeurs et auditrices, nous continuons notre programme avec la mise au point et pour le titre, l'Indonésie s'appelle le cessez-le-feu à Alep en Syrie. Alep tombe entre les mains du gouvernement syrien provoque la douleur. Parce que la population de la ville a subi le traumatisme de la guerre presque tous les jours dans la ville. En voyant ces conditions, la communauté internationale, y compris l'Indonésie, a montré son inquiétude. Le ministère indonésien des Affaires étrangères, dans un communiqué de presse dimanche le 18 décembre 2016, a déclaré que le gouvernement indonésien a appelé à un cessez-le-feu et la livraison de l'aide humanitaire à Alep en Syrie. Le gouvernement et le peuple de l'Indonésie sont très préoccupés par la situation humanitaire plus grave à Alep. Le conflit en Syrie a fait de nombreuses victimes telles que les civils, les femmes et les enfants. À cette fin, le gouvernement indonésien a appelé à un cessez-le-feu pour être réalisé immédiatement et la fourniture de l'aide humanitaire peut être une priorité pour toutes les parties. L'Indonésie encourage à fournir un accès complet à sa entrave pour l'acheminement de l'aide humanitaire aux citoyens syriens d'Alep et d'autres régions syriennes, en particulier pour l'assistance des Nations Unies et d'autres organisations humanitaires internationales. Le gouvernement indonésien demande le processus de pourparlers de paix inclusive et non sectaire entre les parties belligérantes peut être commencé immédiatement. L'Indonésie encourage également le Conseil de sécurité des Nations Unies à prendre des mesures concrètes pour parvenir à un cessez-le-feu et la cessation de la violence, y compris la résolution des conflits en Syrie qui a duré plus de 5 ans. Pour l'Indonésie, la solution du conflit en Syrie doit être faite via des pourparlers et des négociations en respectant les principes tels que la protection et les droits de l'homme et le respect de la souveraineté, de l'intégrité et de l'intégrité territoriale de la Syrie. Pendant ce temps, l'observateur politique international de l'Université d'Indonésie, Baginda Papahan, a déclaré que le peuple de l'Indonésie pouvait aider les gens à l'est d'Alep en utilisant le rôle de la Croix-Rouge. Papahan, à Jakarta, samedi, a déclaré qu'aujourd'hui, la condition à Alep était très complexe car il implique de nombreuses parties. Ainsi, la chose principale que l'Indonésie peut faire dans des couloirs humanitaires est d'encourager une occasion plus large à la Croix-Rouge internationale pour jouer son rôle. Actuellement, la Croix-Rouge internationale est l'organisation qui peut combler et aider les civils qui sont exilés dans l'est d'Alep, qui a été occupé par le gouvernement syrien, aidé par la Russie et ses alliés. Les civils à l'est d'Alep doivent être déplacés immédiatement vers un endroit plus sûr. La communauté dans le pays et à Tangdu peut aussi aider les civils à Alep en canalisant l'aide à travers la Croix-Rouge du Monde. La Croix-Rouge du Monde aujourd'hui est considérée comme le plus neutre pour fournir une assistance ou la santé aux civils pris dans le conflit à Alep Est. Selon Baginda Papahan, une solution au conflit à Alep ne peut pas être résolu par assis ensemble entre les parties en conflit dans la région. Chers auditeurs, c'était la mise au point pour ce soir. La protection des citoyens est le mandat principal du ministère des Affaires étrangères de l'Indonésie. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Mme Retno Marsudi, a dit que les efforts de protection des citoyens indonésiens n'étaient pas faciles parce qu'ils ont souvent à faire face aux risques et exigent la dédicace élevée. À cette fin, le ministère des Affaires étrangères donne le prix Hassan Wirayuda de protection du citoyen 2016 à ceux qui ont contribué de manière utile à la protection des citoyens indonésiens à l'étranger. Dans son discours lors de la cérémonie de remise des prix à Jakarta récemment, le ministre Retno a expliqué que le prix Hassan Wirayuda de protection des citoyens indonésiens 2016 donnait la plus haute reconnaissance aux 17 héros protecteurs des citoyens indonésiens à l'étranger.
Jadi sejak tahun lalu kita memiliki satu tradisi baru untuk memberikan apresiasi kepada banyak pihak yang telah membantu.
Depuis l'année dernière, nous avons une nouvelle tradition de donner l'appréciation aux nombreuses personnes qui ont contribué à la protection des citoyens indonésiens en donnant le prix Hassan Wirayuda. Bien sûr, le ministère des Affaires étrangères, les diplomates indonésiens ne peuvent pas faire cette tâche importante sans l'aide de nombreuses parties. Les lauréats du prix Hassan Wirayuda ont une application directe sur diverses questions de protection des citoyens indonésiens à l'étranger. Ces questions comprennent la protection des travailleurs indonésiens à l'étranger, les équipages de l'Indonésie, y compris les efforts pour libérer des otages, les citoyens qui font face aux problèmes ou se coincent dans un pays de conflit et la manipulation des citoyens qui sont indiqués ou des victimes des actes criminels à l'étranger. Il y a cette catégorie pour ce prix, à savoir la catégorie du partenaire du ministère des Affaires étrangères, le chef représentatif de l'Indonésie, la catégorie du partenaire de représentant de l'Indonésie, la société civile de l'Indonésie, la catégorie journaliste, la catégorie du personnel de représentant de l'Indonésie et la catégorie du gouvernement local. Les lauréats sont entre autres l'unité de trafficking, le département des enquêtes criminelles, la police et le bureau de droit et des relations étrangères, le procureur général, l'ambassadeur d'Indonésie à Mani et le consulat général indonésien à Kuching. Le gouvernement de la République d'Indonésie a condamné l'attaque terroriste qui a eu lieu à Kayseri en Turquie le 17 décembre 2016. Le communiqué de presse du ministère des Affaires étrangères a déclaré lundi que le gouvernement indonésien a également présenté ses condoléances au gouvernement et au peuple de Turquie ainsi que pour les familles des victimes de l'explosion et espère que les victimes blessées pourraient récupérer rapidement. L'explosion d'une bombe à Kayseri avait causé 13 décès et 48 blessures. Selon les informations de l'ambassade d'Indonésie à Ankara, jusqu'à présent, aucun des citoyens indonésiens qui sont victimes de l'incident de bombe à explosion. Toutefois, le ministère des Affaires étrangères et l'ambassade d'Indonésie à Ankara continuent de se coordonner avec les autorités compétentes en Turquie. L'observation d'une série d'attaques terroristes en Turquie depuis quelques mois, le ministère des Affaires étrangères a lancé un appel aux citoyens qui sont dans la Turquie, obéissent à la règle de l'autorité de sécurité locale et évitent les centres surpeuplés qui peuvent être cibles. La province de Kalimantan Central a été demandée de continuer à encourager sa souveraineté alimentaire indépendamment, ne plus prendre de la zone extérieure. Parce que la chaîne d'approvisionnement est trop longue, par conséquent, l'inflation et la pauvreté se produisent qui ne sera pas résolue. Cela a été transmis par le ministre de l'Agriculture, Amran Sulaiman. Le ministre a déclaré que les produits alimentaires qui doivent être développés et améliorés, leur production, tels que le riz, le maïs et les poivrons. Amran Sulaiman espère que Kalimantan Central n'est pas seulement capable d'être indépendant, mais peut exporter du riz vers la Malaisie. Le ministre a ajouté, la Malaisie importe annuellement 1,2 million de tonnes de riz. Il devient un espace et la possibilité pour l'Indonésie pour être en mesure de remplir le volume de ses importations. Le ministre de Coordination économique, Darmi Nasution, assure que le paquet de la politique économique du 15e volume sera publié à la fin de 2016 ou au plus tard au début de 2017. Le ministre Darmi Nasution, dans l'événement Les perspectives économiques d'Indonésie en 2017 à Jakarta, ne se révèle pas encore en détail le contenu du nouveau paquet de la politique économique. Mais il assure que ce paquet soutiendra l'élan de croissance des investissements en 2017. Le ministre a souligné que ce paquet était très important qui a été structuré pour attirer les investissements tant à l'intérieur et à l'extérieur. La communauté des entreprises japonaises d'Indonésie, de Jakarta Japan Club, Atenu une réunion avec le ministre de l'Industrie, Erlangga Hartarto. Le président de Jakarta Japan Club, Tomofumi Fukuda, a déclaré lundi à Jakarta qu'il a rencontré le ministre de l'Industrie, Erlangga Hartarto, pour discuter de l'investissement japonais pour qu'il puisse continuer à contribuer à l'économie indonésienne. Selon Tomofumi Fukuda, l'une des questions qui ont été discutées est la coopération pour accroître la capacité des ressources humaines dans l'industrie indonésie. Il a parlé de la formation professionnelle, comme par exemple un rapport avec la zone industrielle, y compris de construire une école professionnelle pour former des ressources humaines indonésies pour être en mesure de travailler dans la région. Dans ce cas, le ministre Erlangga Hartarto veut que les écoles professionnelles peuvent être construites en Indonésie, de sorte que le Japon peut contribuer à créer des ressources humaines en bonne qualité dans le domaine industriel. Tomofumi Fukuda a déclaré que dans le domaine de l'industrie électronique, le Japon a l'intention d'exécuter le programme d'échange de ressources humaines via l'envoi de travailleurs indonésiens au Japon. Chers auditeurs, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Nous continuons notre programme avec le magazine culturel et apprendre l'indonésien.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tour de beauté en Indonésie.
Bonsoir, chers amis, la Voix de l'Indonésie dans quatre coins du monde. Voici le magazine de couleurs indonésiennes. Pour ce mardi, on vous invite de visiter à l'île de Lombok, en province de Nusa Tenggara de l'Ouest. Alors, restez avec nous au RRI World Service ou la Voix de l'Indonésie. Outre par en courte, vous pouvez également écouter notre émission par www.co.id, bien sûr avec le streaming. Chers amis, Lombok est une petite île dans les îles de la Petite Sonde ou Nusa Tenggara, étant séparée par le détroit de Lombok de Bali. Dans l'administration, Lombok est provenant de la province de Nusa Tenggara de l'Ouest. Outre de Bali, Lombok devient l'une des destinations touristiques préférées en Indonésie. Cette île est connue pour les belles plages avec la magnifique nature sous-marine. Il est intéressant de voyager à Lombok. Et non seulement ces belles plages qui peuvent être adorées, parce que Lombok a également la forêt touristique de Lemor qui offre la fraîcheur de la nature. Ce site se trouve dans le village de Cempaka ou Sula, au district Sula, sur la préfecture de Lombok de l'Est. Chers amis, la forêt de Lemor est située à latitude de 700 mètres au-dessus du niveau de la mer et une forêt protégée. Ainsi que ce site est l'entrée du Mont Renjani comme le géoparc national. Son étendue est d'environ 89 hectares de carré. Pour entrer dans ce zone de forêt, vous devez payer 5000 rupiah ou bien à peu près la moitié de 1 euro. Entrant de cette forêt de Lemor, vous serez accueilli par des grands arbres imposants et chants des oiseaux. Ici, vous pouvez trouver différents types d'animaux tels que des différents oiseaux, des singes, des varans, des sangliers, divers types de serpents et de nombreuses autres espèces animales. Outre les animaux, il y a aussi de nombreux types de plantes dont les fruits peuvent être consommés, comme fruits en général, ainsi que l'impigno, son arbre boisé et assez grand. Ses grains plus gros et la peau de fruits est assez dure et il se sent en tant aigre, bite et il y a aussi un sentiment de douceur. Puis, la fruit de odak, il est grand arbre, fruit pétrissant, plus petit, et la couleur de la peau verte soit encore crue et cuite. Il y a aussi le fruit de cates, grand arbre, fruit ronde et petite, et il semble d'être en doux et aigre. Et il y a aussi des autres fruits. Chers amis, outre comme forêt rafraîchissante dans la zone protégée, à la mort, on trouve aussi un assez grand resort avec des charges d'eau d'environ 200 mètres cubes par minute. En plus d'assurer le besoin de l'eau propre pour les villageois de Suela, cette resort a également été utilisé pour irriguer les terres agricoles entourant les communautés. Dans la forêt de la mort, il existe la baignade piscine dont l'eau est très froide et coule tout le temps. L'eau provient des sources de montagne de la mort reliées directement de l'enfant de Mongrenjani au village de Sembalun. Chers amis, pour profiter de la fraîcheur du bain d'eau de forêt de la mort, vous devez passer 111 escaliers. Faire marcher à ces escaliers, on n'est pas épuisant, parce que à gauche et à droite, il existe les bosques d'arbres d'acajou et des dizaines d'autres espèces végétales. En plus d'être utilisé comme parc national touristique, voyage et de baignade, la forêt de l'amour fonctionne aussi comme le terrain de camping et le tourisme naturel. Et pour ceux qui y visitent, il faut avoir besoin d'une demi-heure de la capitale de Mataram, celle de Nusa Tenggara de l'Ouest, avec la distance à peu près 75 km. Chers amis, c'était la couleur indonésienne ayant le titre de la forêt de Lemor à l'île de Lombok, Nusa Tenggara de l'Ouest. Merci de votre attention et fidélité. Au revoir à l'autre sujet intéressant. À bientôt.
Comprendre et parler l'indonésien, vous pouvez écouter notre programme Aller apprendre l'indonésien.
Bonsoir tout le monde. Retrouvons-nous de nouveau dans l'édition Apprendre l'indonésien. Dans cette édition, nous vous présentons une conversation intitulée Mengirim Surat. En français, envoyer une lettre. Chers juristes et auditeurs de la voix de l'Indonésie en entière, dans ce programme Apprendre l'Indonésien, je vais tout d'abord introduire le vocabulaire et les expressions liées au thème d'aujourd'hui. Je dirais chacune deux fois et vous devrez les répéter après moi. Je répète, je dirai chacune deux fois et vous devrez les répéter après moi. Voilà le vocabulaire. Di kantor pos. Au bureau de poste. Au bureau de pos. Bantu. C'est-à-dire en français, aider. Mengeposkan surat. mengeposkan surat. En français, envoyer une lettre. Envoyer une lettre. Surat. Surat. En français, lettre. Lettre. Butuh. Butuh. Avoir besoin. Avoir besoin. Ou bien nécessite. Nécessite. Pranko. Pranko. En français, timbre. Timbre. Mengirim surat. Mengirim surat. En français, envoyer une lettre. Envoyer une lettre. Kemana? Kemana? En français, où? Où? Tergantung. Tergantung. En français, dépend de. Dépend de. Jarak. Jarak. En français, distance. Distance. Berat. Berat. En français, poids. En français, poids. Ditimbang. Ditimbang. Être pesé. Être pesé. Teman. Teman. En français, un ami ou un ami. En français, un ami ou un ami. Tinggal. Tinggal. Séjour. Séjour. Pos tercatat. Pos tercatat. En français, courrier recommandé. En français, courrier recommandé. Pos kilat. Pos kilat. En français, courrier express. En français, courrier express. Pos biasa. Pos biasa. En français, poste restante. En français, poste restante. Sekarang. Sekarang. Maintenant. En français, maintenant. Mengisi. Mengisi. En français, remplir. En français, remplir. Formulir. Formulir. En français, formulaire. En français, formulaire. Chers auditeurs, voilà, c'était le vocabulaire. Et maintenant, je vais vous donner un exemple de conversation intitulée « Mengirim surat » en français « Envoyer une lettre ». Et comme d'habitude, je dirai le dialogue phrase par phrase de voix, lentement. Et vous pouvez suivre après moi. Cette conversation est entre Ida et Anna au bureau de poste. Maintenant, écoutez bien. Ida. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Bonjour, Madame. Bonjour, Madame. Ada yang bisa saya bantu? Ada yang bisa saya bantu? Comment puis-je vous aider? Comment puis-je vous aider? Anna. Saya ingin mengeposkan surat. Saya ingin mengeposkan surat. Je voudrais envoyer une lettre. Je voudrais envoyer une lettre. Saya butuh beberapa perangko dan sebuah amplop. Saya butuh beberapa perangko dan sebuah amplop. En français, il me faut des timbres et une enveloppe. Il me faut des timbres et une enveloppe. Anna, Anda mau mengirimkan surat ke mana? Anda mau mengirimkan surat ke mana? En français, vous voulez envoyer une lettre où? Vous voulez envoyer une lettre où? Anda mau mengirimkan surat ke mana? Vous voulez envoyer une lettre où? Perangko yang dipakai tergantung jarak dan beratnya. Perangko yang dipakai tergantung jarak dan beratnya. En français, le timbre qui est utilisé dépend de distance et de poids. Le timbre qui est utilisé dépend de distance et de poids. Lebih baik surat ditimbang dulu, Bu. En français, il vaut mieux que la lettre soit pesée. Il vaut mieux que la lettre soit pesée. Anna, saya mau mengirimkan surat ini untuk teman saya. Saya mau mengirimkan surat ini untuk teman saya. En français, je veux envoyer la lettre à mon ami. Je veux envoyer la lettre à mon ami. Saya mau mengirimkan surat ini untuk teman saya. En français, je veux envoyer la lettre à mon ami. Dia tinggal di Beijing. Dia tinggal di Beijing. Elle habite à Beijing. Elle habite à Beijing. Dia tinggal di Beijing. En français, elle habite à Pékin. Dia tinggal di Beijing. Elle habite à Pékin. Anna, Anda mau mengirimkan surat ini dengan pos tercatat, pos kilat, atau pos biasa? Anda mau mengirimkan surat ini dengan pos tercatat, pos kilat, atau pos biasa? Vous voulez envoyer cette lettre par courrier recommandé, par courrier express, ou par courrier postal? Anna, saya ingin mengirim dengan pos tercatat. Saya ingin mengirim dengan pos tercatat. En français, je veux envoyer par courrier recommandé. Je répète, je veux envoyer par courrier recommandé. Kalau begitu, sekarang silakan mengisi formulir dan tanda tangan. Kalau begitu, sekarang silakan mengisi formulir dan tanda tangan. En français, eh bien, maintenant, s'il vous plaît, remplir le formulaire et le signer. Eh bien, maintenant, s'il vous plaît, remplir le formulaire et le signer. Anna, baiklah, terima kasih. Baiklah, terima kasih. Bon. D'accord, merci. Bon, d'accord, merci. Chers juridiques auditeurs, c'était la rubrique Apprendre l'Indonésie pour ce soir. Merci de votre fidélité et attention. À bientôt, au revoir.
Comme la fin de notre émission, voici le magazine musical.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter La Voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le magazine musical. Vous pouvez écouter nos émissions sur la fréquence de 9525 kHz ou en streaming de www.veu.co.id. En outre, vous pouvez également écouter nos émissions par l'application sur RRI Play. Dans cette édition, nous allons vous présenter une chanteuse de dangdut, Yusnia. Pour ouvrir notre rencontre, voici sa première chanson intitulée « Maison très modeste ». Bonne écoute. Chers auditeurs, c'était la chanson intitulée « Maison très modeste » chantée par Yusnia. Si vous voulez envoyer une lettre par courrier électronique à french@voi.co.id et nous vous invitons également à rejoindre la Voix de l'Indonésie sur Facebook, Voice of Indonesia ou à nous suivre sur Twitter @voiceindonesia. Chers auditeurs, la chanson Entre les maisons très modestes, composée par Mokhtar B, raconte une personne qui était prête à vivre dur, à condition qu'elle soit ensemble avec son amant. La musique de cette chanson soulève le thème de la musique d'angle classique avec des chansons mélancoliques, mais elle est toujours bonne de balancer. Cette chanson a été popularisée par Yusnia aux années 1980. Grâce à cette chanson, elle est plus connue dans l'industrie musicale dans le pays. Bon, chers auditeurs, avant de mieux connaître Yusnia, voici la chanson suivante de Yusnia intitulée « Ils savent ». Bonne écoute.
Thank you.
Chers auditeurs, je vous rappelle que vous êtes avec nous dans le programme Le Magazine Musical avec une chanteuse de danglout, Yusnia. Yusnia a commencé à chanter quand elle avait 13 ans. Il connaît le monde de la musique par ses parents qui sont un artiste. Elle a sorti beaucoup d'albums de danglout. Bon, chers auditeurs, avant de terminer notre programme, écoutons d'abord la chanson suivante intitulée « Les maladies d'amour ». Bonne écoute et à bientôt. C'était notre programme pour ce soir. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie. Présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à Émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5, Jakarta ou PO Box 1157, Jakarta 1011, Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voix Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.